Bonjour, nous sommes le jeudi 2 février 2023, il sonne 11h et nous sommes heureux de vous retrouver. Vous l'avez remarqué, la voix sonne encore creux, mais nous faisons l'effort d'être au studio pendant que nous témoignons notre gratitude à Fosséni Saïbou et aux amis qui étaient au studio hier et que nous saluons les techniciens qui nous accompagnent aujourd'hui, Vito Gbekoku, Michel Tominga et Jérôme Dakoucha. Nous vous saluons et vous remercions aussi, vous, les nombreux auditeurs du Club La Presse, sous tous les cieux et sur divers canaux. Vous vous connaissez vous-même déjà, pendant que nous saluons et remercions les confrères qui se pointent à nos côtés aujourd'hui. Les deux premiers arrivés sont en train de s'installer, pendant que nous allons témoigner notre gratitude à deux personnes amies du Club de la Presse qui célèbrent un heureux événement, anniversaire de naissance. Le premier, c'est Gabriel Achou Etekpo, qui est partenaire de Canal FM et qui dirige l'association Maïma Gbodédié, qui fait l'éducation, la sensibilisation sur le code de la route. Notre deuxième auditeur que nous saluons, c'est notre confrère ami, je dirais même père, Ignace Polorini, journaliste lui-même, conseiller en communication au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et développement du territoire. C'est les deux, et vous tous, même si nous ne vous mentionnons pas, c'est vous tous que nous saluons aujourd'hui.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Bien, nous sommes au complet ici au studio, mais avant encore de vous décliner les confrères dont vous devinez déjà les noms et les voix, partageons la phrase de Jean-Paul Sartre que nous choisissons comme pensée du jour aujourd'hui. Jean-Paul Sartre qui dit « Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. » Encore une fois, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Eh bien, les confrères, commençons par le chef canton du Club La Presse, Michel Tchadja Sarakawa Balo Biasma.
À la FIA. Bonjour, Sas.
Tu vas très bien.
Oui.
Merci.
Oui, bonjour aux confrères ici présents et surtout bonjour à tous nos amis. Auditrice, auditeur du bout des ondes.
Ami I, ami E.
Oui.
Et l'homme Kossia Tichogbe de la Nouvelle Tribune. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs et à toutes les auditrices aussi. Je n'oublie pas mes confrères en studio. Je profite de l'occasion pour présenter toutes nos excuses à nos lecteurs parce qu'aujourd'hui on n'a pas paru, on a eu un souci technique. On a remis la parution sur demain vendredi. Donc, c'est l'occasion de présenter toutes nos excuses et de rassurer nos lecteurs que la Nouvelle Tribune sera dans les kiosques demain vendredi.
Ah, tu me rassures parce que je me demandais si la Nouvelle Tribune aussi était suspendue.
Non, non, il fallait quand même préciser cela. On a eu un souci technique lié à l'imprimerie. Donc, demain, tout rentrera dans l'ordre. Et je profite aussi de l'occasion pour faire un coucou spécial à l'ONG Togo Environnement Propre qui vient d'étendre son action Opération Faucon à la commune Golf 1. Et qui aujourd'hui entre en ligne de mire par rapport à cette opération qui a connu une belle réussite dans d'autres communes, notamment la commune Golf 7. Et je lance aussi un appel, je ne sais pas quelle institution gère les lampadaires, mais la route de Ségbé, par exemple, on a mis des lampadaires qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais été allumés, mais qui sont déjà en état de délabrement. C'est-à-dire que c'est des lampadaires qui n'ont jamais été allumés une seule fois à partir de Wanyomé jusqu'à Ségbé, mais qui sont déjà défectueux.
Il faut dire que les poteaux commencent déjà à tomber. En français facile.
En fait, c'est ça. Les poteaux commencent à tomber et même c'est-à-dire les ampoules qui sont perchées là-haut commencent déjà aussi à tomber. Mais c'est pour des lampes qui n'ont jamais fonctionné, je précise. qui n'ont jamais été allumées sur cette route-là.
Ce que nous disons concerne la commune Golf 7, alors que l'opération Faucon de l'ONG Togo Environnement Propre vient de s'étendre à la commune Golf 1, en français facile, c'est la commune Baie à feu de main, avec son maire numéro 1, Joseph Kwami Gomado. Je reviens au studio avec Jean Legrand Polorini.
Sas, bonjour. Bonjour, confrères en studio et à tous ceux qui nous écoutent de partout. Et bonjour, techniciens derrière la baie vitrée.
Il faut rappeler que les Polorini sont en fête aujourd'hui.
Oui, bon, il faut dire que c'est depuis hier, en fait. C'est le 1er février.
Oui.
Que...
Donc, la fête continue.
La fête continue
si
tout le mois de
février. Les Polorini sont en fête et qu'il y a un Polorini ici au studio, nous avons compris.
Bien évidemment.
Maintenant, après avoir présenté les mariés, pères de famille, je vous présente le Benjamin de la classe, Magloire Teko Kenvi. Bonjour.
Alors, bonjour à toi, Sasgaou. Bonjour aux confrères ici présents et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent naturellement sur la 93.5. La nouvelle génération.
Merci. Au menu, hein, 3 à 4 sujets. Le premier, nous sommes le 2 février aujourd'hui. Et ceux qui ont un certain âge se rappellent qu'il y a de cela 49 ans, alors qu'il revenait de Pia à Lomé après l'accident d'avion du 24 janvier 1974, feu Étienne Nyasingbe et Adema prononçaient la nationalisation des phosphates du Togo. Et si vous suivez l'actualité d'il y a un jour, deux jours, hein, en RDC, lorsqu'il est en visite en RDC, le pape François est aussi revenu sur la problématique de l'Afrique qui se trouve être victime de ses richesses. Donc, sujet numéro 1 de Eya Dema au pape François, l'Afrique victime de ses richesses. Nous allons en parler. Et deuxième sujet, ce matin, nous sommes réveillés avec une sorte de langue de bois. Deux confrères qui se retrouvent suspendus, Tampa Express et Liberté. Nous allons en parler. Sujet numéro 3, plein feu sur certaines situations que nous vivons au jour le jour, notamment nos centres hospitaliers universitaires. Le phénomène du Zemidjan que d'aucuns appellent la langue d'Ésope, à savoir les Zemidjans sont à la fois la meilleure et la pire des choses, et des journaux sont revenus sur les forums des producteurs agricoles du Togo et également les semaines culturelles à venir. Quel est le nouveau format? Voilà les sujets dont nous allons débattre. Et par l'histoire, commençons par le sujet numéro 1. Du retour triomphal de Nyasingbe Yadema à la visite du pape François en RDC, même constat, même combat devant les prédateurs des richesses de l'Afrique, l'Afrique victime de ses richesses. Mais histoire, un extrait de ce que Étienne Nyasingbe Yadema déclarait le 2 février 1974.
Il ne savait pas du tout à qui ils avaient affaire. Militants et militants. Quand ces gens viennent, ils ne manquent de nous dire, ils veulent nous aider, ils veulent faire telle chose. Mais nous sommes d'accord, un pays en voie de développement, eux, ils sont pays nantis. Posons-nous la question de savoir qui aide l'autre, est-ce nous ou c'est eux? Un tel accident ne m'a pas du tout étonné, quand il s'agit n'est-ce pas des dizaines de milliards, ça ne m'a pas du tout étonné. Mais, vous savez mes amis, quand vous êtes en brousse, comme chasseur, il ne faut jamais tenter de tirer sur un buffle si vous n'êtes pas sûr de l'abattre sur place. Militantes et militants, ce qui m'a un peu peiné dans cet accident d'avion, la déclaration, la petite déclaration que je vous ai adressée, je vous disais ceci, Togolais, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances et quoi qu'il m'arrive, il faut continuer cette bataille économique que nous avons entreprise ensemble. C'est très significatif. J'ai livré un secret à un des officiers supérieurs. Je dis, mon ami, les capitalistes sont capables de tout. Tu te rends compte que dans cette affaire, ils veulent me corrompre avec 1 milliard 500 millions. Prendre 1 milliard 500 millions et sacrifier les intérêts de mon peuple. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Voyez-moi, c'est vraiment, j'avais accepté de vous trahir. je mourrai, n'est-ce pas, dans cet accident. Mes chers compatriotes, je vous ai dit, c'est maintenant que nous avons déclenché le combat économique. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette affaire? Ils m'ont pas eu, je les ai eu. Désormais, la décision que nous prendrons lundi, le post-fact, désormais, rien ne doit sortir sans verser l'argent. Militants disaient militants, je disais que la décision que nous prendrons lundi, désormais, rien ne doit sortir du Togo sans avoir versé l'argent dans une des banques togolaises ici. Les ressources togolaises doivent profiter aux Togolais. Puisqu'on nous a traité de tout, que nous avons nationalisé, nous avons fait telle chose, à partir de lundi, nous décidons de prendre les 49% restants.
Eh bien, ce sont là un extrait des propos authentiques de Étienne Nyasingbé et Adema. C'était sur l'esplanade du Palais des Congrès. Les plus âgés se rappellent, mais vous avez constaté, nous avons traité le son et nous l'avons coupé de ce qui est harangue et hurrah populaire, parce que c'était l'essentiel du message qui nous intéresse. Eh bien, de Nyasingbé Adema, revenons au pape François, qui déclarait il y a deux jours à Kinshasa, qui se prononçait sur la problématique de l'Afrique victime de ses richesses. Des journaux en parlent, dont Flambeau qui écrit la page 7, François, la voix d'une Afrique exploitée. Avec comme extrait du pape François, retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. 3 points de suspension et voilà les vainqueurs. En parle lui aussi, hein, Michel, tu évoques les vérités crues du pape François. Comme pour dire que ce que Yadema disait il y a 49 ans, c'est encore la réalité que nombre de pays africains vivent aujourd'hui.
Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Après des années, on se rend compte que rien n'a changé sous le soleil. Vous savez, moi, particulièrement, quand j'ai écouté le pape François, je me suis posé beaucoup de questions. Bon, il est là et bon, il va partir dans quelques heures pour le Soudan du Sud. Mais quand il va partir, ça va servir à quoi ses propos? Ça va changer quoi ses propos? C'est de ça qu'il est question. Et le pape vient du Vatican, il a parlé, il va retourner chez lui au Vatican. Et le Congo restera aux Congolais. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est là mon problème. Parce que quand Yadema le disait, le feu président Yadema le disait en février 1914, nous avons constaté, avec l'histoire, puisque on avait quelques années seulement à l'époque, mais à l'école, on nous a appris que après ça, il y a le boom phosphatier qui a permis la construction de l'hôtel de la paix, de l'hôtel du 2 février, le port même autonome de Lomé, et puis bon...
Non, le port était construit bien avant.
Avant 1974.
Oui.
Oui, mais il a été, en tout cas, modernisé.
Voilà, extension
modernisée, oui. Et il y a beaucoup d'infrastructures que nous avons héritées, donc, du boom phosphatier. Mais, bon, jusque là, dans les années 90... où, bon, certains ont cru bon de crier à haut sur lui. En tout cas, je vais parler sur le président Yadema. Et la suite, on la connaît. Et les Congolais, ce qu'ils vivent là-bas, je pense que c'est plus grave. C'est plus grave parce que les atrocités qui sont constatées dans ce pays, c'est dû au fait qu'il y a des gens, il y a des Congolais et des non-Congolais qui se ont mis la main basse sur les richesses minières et pour assouvir leurs ambitions, ils ont trouvé bon de faire subir d'autres Congolais, de les créer l'enfer sur terre pour pouvoir continuer
à exploiter les richesses du pays.
Et c'est beaucoup plus les Congolais. Parce que c'est les Congolais, pour des raisons qui leur sont propres, qui appelle les étrangers à venir les aider à extraire et à commercialiser les minéraux congolais et pour leurs propres intérêts. Et donc, et que ce soit au Congo ou ailleurs, ce n'est pas forcément les étrangers qui viennent comme ça. C'est les autochtones qui, pour des raisons... Vous savez, il y a des gens, des chefs d'État qui, ma foi, qui pour permettre à certains pays qui les soutiennent hors de leur pays, pour fermer les yeux sur les tripatouillages électoraux, sur leurs violations répétées des droits de l'homme, sont obligés de laisser piller les richesses par ces gens-là, par ces pays hors du continent, pour fermer les yeux sur ce qu'ils organisent. Merci. Dans leur pays.
On ne finirait pas d'en parler, mais dans un propos, Magloire, Yadéman disait que les impérialistes avaient tenté de le corrompre avec une certaine enveloppe financière, des promesses de châteaux à Paris, et parce qu'ils ne cédaient pas, ils avaient failli, ils avaient voulu même en attenter jusqu'à sa vie. Dieu merci, il s'en est sorti indemne. Mais du Togo en RDC, comme disait tantôt Michel, aujourd'hui, le Congo est un gâteau que les rapaces se partagent au détriment du Congo et de ses fils.
Oui, c'est malheureusement le constat qu'on fait. Depuis lors, le général Yadéman l'a bien dit, malheureusement, on se rend compte que la réalité se perpétue au jour le jour. Et plusieurs années après, on constate que nous faisons du surplace. Les réalités sont encore patentes, les mêmes. Et vous allez constater que généralement, on a tendance en Afrique à critiquer le monde occidental, qui est à la base de tous nos maux. C'est peut-être à tort ou à raison, j'en sais rien. Mais en vrai, posons-nous les bonnes questions. Regardez un peu ce qui se passe actuellement entre la RDC et le Rwanda. Dites-moi, est-ce que c'est sérieux ce que Paul Kagame et ses amis font en RDC là-bas? Et ça encore, est-ce que c'est le blanc qui est derrière Kagame? Quand on connaît déjà la réalité ou les relations un peu conflictuelles entre Kagame lui-même et le monde occidental, notamment la France, ça voudra dire qu'à un moment donné, c'est l'Africain qui devient le bourreau contre son propre frère africain. Et je crois que c'est là où le discours du pape est tellement si pertinent, si noble, si solennel, que non seulement il a choisi la RDC comme ce grand pays assez vaste, mais qui, à mon avis, résume à peu près la réalité de l'Afrique. Mais ce Congo-là également constitue, on va dire, la pièce maîtresse ou l'épicentre même, je dirais, d'une lutte sociale pour l'épanouissement même de l'Afrique. Parce que n'oublions pas, quand on prend la RDC par exemple, il y a le CENCO, qui est l'équivalent donc de la conférence des évêques du Togo, qui est cette puissante organisation des évêques qui est là au-delà de la lutte sociopolitique pour dénoncer l'injustice, pour à chaque fois interpeller le politique par rapport à ses dérives et ce qu'il doit faire. Et donc je crois que de Yadéman au pape François, on doit à peu près prendre du recul par rapport aux différents points que ces deux hommes-là ont énumérés par rapport aux maux qui minent le continent et à notre, c'est-à-dire qu'on mettra tout le temps qu'il faut pour analyser, faire un diagnostic assez holistique de la situation pour se demander enfin, est-ce que c'est permanemment le blanc qui nous pose problème ou bien c'est
merci.
Nous-mêmes?
Est-ce que c'est permanemment ou bien est-ce que c'est seulement le blanc qui nous pose problème? Paul Kagame et le Rwanda sont accusés de vouloir se dépecer le Congo, mais certaines accusations sont portées également contre l'Ouganda, même contre le Burundi. Et ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Et puis ce que Michel disait tantôt, c'est un chef d'État qui accepte de brader leurs richesses pour leur maintien au pouvoir. Si Yadéman avait accepté disons les 1,5 milliards et châteaux, il serait parti et les Togolais seraient restés sur la dette. C'est pour dire que ce soit des États africains ou bien des Africains nous-mêmes, nous sommes complices du mauvais sort qui est fait à notre continent aujourd'hui pour les richesses, mais hier pour la colonisation, des Africains s'étaient portés aux côtés des impérialistes. Et même au temps de l'esclavage, les Africains également étaient complices de la traite de leurs frères et de leurs sœurs.
En fait, c'est une question d'héritage culturel aussi. quand vous analysez ou vous étudiez les civilisations ouest-africaines ou les civilisations africaines en général, vous constatez que les civilisations en Afrique ont traversé pas mal de soubresauts. Et je crois quand même que vous avez bien fait de relater tout ce qui s'est passé. L'Africain a souvent été à l'origine de la chute de son propre frère ou de sa propre sœur. C'est quand même triste. Cet état de choses qui se passe au Congo aujourd'hui est condamnable parce que ça se passe également sous les yeux de la communauté internationale qui a choisi de se taire définitivement sur des exactions sur certaines parties du globe. Ce qui se passe en Ukraine, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, la communauté internationale, si elle existe encore, n'a pas pu véritablement décanter la situation. Ça se passe aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda, et en sachant que le Rwanda est un pays qui vient de très loin et qui a connu le génocide. Et la RDC aussi est un pays aujourd'hui très instable à cause de la crise qu'il y a au niveau de Goma. Donc il y a plein de choses aujourd'hui qui se passent sous les yeux de la communauté internationale qui, ma foi, gardait un mutisme entier ou a démissionné face au maintien de la paix et de la prévention des conflits dans le monde. Je ne sais pas si cette culture existe encore, la prévention des conflits, mais je pense qu'il y a de cela 5-10 ans, on était vraiment, vraiment... On rabattait plutôt les oreilles avec cette affaire de prévention de conflits. Mais aujourd'hui, je pense que ça a disparu de la mémoire collective. Et les conflits, les poches de tension que nous avons sur le continent ont du mal aujourd'hui à trouver, je dirais plutôt, une certaine pacification. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Le pape est là. Le pape est au Congo présentement. Il a plaidé pour la paix. Il a dit que les richesses de la RDC ne profitent pas véritablement ou ne profitent pas beaucoup aux Congolais. C'est une évidence. Quand vous prenez beaucoup de pays sur le continent africain, vous constatez que les richesses naturelles ou les richesses minières ne profitent pas véritablement aux populations, mais à un groupe d'individus, à un groupe de personnes qui s'attribuent ou s'octroient les avantages. Vous avez vu ce qui se passe en Afrique du Sud avec les gisements d'or qu'ils ont, ce qui se passe en Guinée, parce que quand la junte a pris le pouvoir, ils ont révisé beaucoup de contrats miniers. Ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré à son départ, avec les nombreuses mines d'or qu'il y a aussi du côté du Burkina, et ce qui se passe encore aujourd'hui du côté de la RDC. Donc, vous voyez, tout ce qui a trait aux richesses minières et naturelles continue d'occasionner des conflits un peu partout. Il faut juste prier qu'on trouve juste le bon bout.
Jean Legrand Polorini, voilà le diagnostic que nous essayons de faire. Maintenant, il faut aller au-delà de ce diagnostic pour qu'il y ait une réelle prise de conscience chez nous ici au Togo ou en Afrique, si tant est vrai que nous voulons être indépendants et fiers d'assumer notre africanité.
Oui, ça, vous savez, ce qui se passe en RDC aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les années 1800. Vous savez, l'Afrique a toujours été sujette à être exploitée par les forces venues d'ailleurs, notamment à travers l'esclavage, après la colonisation et aujourd'hui. Vous savez, ça n'a pas véritablement changé la colonisation, c'est juste le mécanisme d'aliénation et de domination des peuples qui a changé de nom. C'est juste ça. Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité aujourd'hui avec les accords politiques, économiques, on parle de partenariat et tout ça. C'est juste des manières aujourd'hui pour les plus forts, aujourd'hui, de spolier, mais de façon légale, les pays sous-développés, ou bien en voie de développement, mais notamment avec la complicité des nationaux eux-mêmes. Vous avez tantôt parlé de la traite négrière, de la colonisation. Cela ne pouvait avoir lieu s'il n'y avait pas des intelligences intérieures. Et c'est ce qui continue de se perpétuer aujourd'hui parce que on n'a pas suffisamment un nationalisme, un patriotisme fort. Nous avons des individus qui sont des hommes forts, mais nous ne voulons pas véritablement œuvrer pour le développement de nos nations. Ce qui fait que, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il met en place une armada qui lui permet vraiment de lutter uniquement pour la conservation du pouvoir, pas véritablement pour l'épanouissement des peuples. Et c'est un peu partout en Afrique. Je ne sais pas véritablement est-ce que ça va changer avec le temps, mais tant que nous n'aurons pas mis les valeurs nationalistes au cœur des politiques que nous faisons, je peux dire que... Ça, si tu nous laisses terminer, tu me laisses terminer, je peux dire véritablement que... Nous ne sortirons pas encore de l'auberge. Et il faut préciser que les conflits que nous avons, c'est pour régler ces conflits que, entre temps, on a mis en place la SDN, qui est devenue aujourd'hui ONU. Mais fort malheureusement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'ONU n'est devenue qu'un conglomérat de personnes qui luttent uniquement pour leurs intérêts
et pas véritablement pour la paix au sein des nations. Vous voyez le conflit en Ukraine où une partie s'est réunie contre une autre. Vous voyez en Libye comment les puissances se sont réunies pour déstabiliser ce pays. Et c'est le même schéma qui se reproduit de pays en pays. Au point où on se dit véritablement qu'il faut que les gens se disent aujourd'hui qu'il faut s'armer, il faut être suffisamment fort pour résister à ces gens. Parce que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Les plus faibles sont toujours dominés. Et ce qui se passe en RDC, ma foi, vous voyez comment toutes les puissances, sont en train de détruire ce pays. En mondovision, nous voyons, tout le monde sort des communiqués, mais on fait un jeu. Nous sommes dans une arnaque complète. Ma foi, je ne sais pas si ce monde que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera d'ici 10, 15, 20 ans, parce que nous sommes en train d'aller de décrépitude en décrépitude.
Merci. Comme pour dire, pour paraphraser un certain Jacques Chirac, la RDC est en train d'être dévastée, d'être dépecée comme des vautours, et nous faisons semblant de regarder ailleurs. Michel ?
Oui, oui, il a tout peint. Il a tout peint. Moi je dis qu'aujourd'hui, ce que je veux passer comme message, c'est qu'on laisse de voir seulement l'extérieur comme étant l'origine de nos problèmes. Je pense que c'est nous d'abord. C'est nous d'abord en Afrique. Regardez la plupart des chefs d'État. Ils sont là au pouvoir. Ils veulent se pérenniser au pouvoir. Et pour cela, ils sont obligés de vendre entre guillemets leur pays.
De brader, oui.
Des ressources pour pouvoir permettre, je l'ai dit tantôt, permettre à ces pays-là de fermer les yeux. Regardez entre nous. Mais quelles sont ces histoires-là que quand on fait des élections, qu'il y ait d'observateurs, pour ils viennent voir quoi? En Europe, là, il y a des observateurs. Il faut vous interroger. Mais ils viennent voir ça pour
quoi? Parce que ce sont les bailleurs.
Si nous voulons, c'est à la SAP, on peut mettre fin à ça. Exactement. Nous-mêmes, nous observons nos élections.
Donc, il faut que les gens aient la capacité de financer même leurs élections.
Et nous avons les moyens pour ça. Si les ressources que nous avons, si on a des dirigeants capables de veiller à la bonne gestion de nos ressources, nous avons les moyens d'observer nos élections. Si vous prenez le Rwanda, oui, vous le comparez à la RDC, c'est un village.
On dirait un quartier.
Un quartier même. Mais comment un quartier là peut tenir tête à ce continent? Et allez-y comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps, que quand vous prenez le Rwanda, il dit que les Américains sont derrière Félix Tshisekedi. Et quand vous allez à Kinshasa, on dit que la France est derrière le Rwanda. Ouais. Voilà. Et moi, là où la grande comédie qui se joue là-bas, et qui me fait sourire tout le temps, c'est que certains pays se sont organisés que force, croyez, de l'Afrique de l'Est. Or, on sait que tout ça là, tous ces pays-là, en sont pour quelque chose au Congo.
Mais la preuve,
mais ils s'organisent.
Oui, Michel, le Burundi et l'Ouganda ont des troupes pour sécuriser l'Est du Congo, alors que ces pays
sont soupçonnés de piller l'Est. Et tout ça là, comme vous le dites, ceux qui nous observent de très loin et ils tirent des avantages, ils sont contents. De ce sketch-là, qui sont constamment joués.
Merci, intéressant, mais souffrez qu'on passe au suivant. Juste une précision.
Oui, juste une précision. En fait, Michel a un peu marché sur ma lampe parce que, vous savez, c'est le général Yadema qui disait que si le mur est fendillé, l'ennemi ne pourra...
Les arbres ne peuvent pas se glisser dedans.
Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui dressons le tapis rouge à l'ennemi pour venir créer du désordre chez nous. Voyez-vous, Elom tantôt parlait du thème communauté internationale. À un moment donné, moi, j'aimerais qu'on marque une petite pause et réfléchisse même sur cette terminologie. Moi, je me pose la question, est-ce que de l'autre côté, eux aussi, ils pensent en ces termes de communauté internationale en mettant l'Afrique dedans?
La question se pose.
On n'est pas dedans. Pourquoi c'est ici chez nous toujours qu'on parle de communauté internationale, sachant que ces gens-là, c'est des groupements d'intérêts. S'ils peuvent vous déstabiliser pour avoir une carte blanche, pour faire même sur vos bonheurs, vos richesses et tout, ils le feront. C'est pourquoi nous avons dit en amont qu'il faut que nous-mêmes nous respectons Et à la fin,
les problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique, hein, la source, c'est les Occidentaux. C'est quand ils ont détruit la Libye, ouais. Et ils sont même soupçonnés d'être derrière ces hordes de terrorisme qui nous terrorisent, qui nous menacent dans notre vie. Encore une fois, c'est à nous-mêmes de nous montrer que nous sommes fiers d'être Togolais, d'être fiers d'être Africains. Et cette fierté devrait passer par la liberté, entre autres, de parler, de nous exprimer, notamment dans les médias. Or, la vérité est fait, le constat est fait que la liberté de presse n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Actualité oblige, chronique de la semaine nous rappelle cette tragédie arrivée à notre confrère camerounais Martinez Zogo après l'assassinat du journaliste Colère et Peur chez ses pairs. Nous en avons parlé. Au Togo, aucun journaliste n'a disparu, encore moins mort. Mais ce matin, nous nous réveillons avec cette suspension qui vient de frapper deux organes, à savoir Tampa Express et Liberté. Revue de presse avec Flambeau qui écrit que la haute autorité de l'audit de la communication, la HAC, suspend Liberté et Tampa Express. Le changement en fait même son titre à la manchette. La presse en danger, Liberté et Tampa Express suspendue pour 3 mois. Triangle des enjeux assigné en justice. Zeus Aziadouvo, qui vient de démissionner de la HAC. Et dans sa lettre adressée à ses désormais ex-collègues de la HAC, Zeus Komi Aziadouvo écrit, citation, « Nous hypothéquons notre indépendance en cédant aux désidérata des groupes de pression politique dont l'agenda est d'imposer la loi du silence. » Bon, pour faire le point, pour ce qui concerne Liberté, tout est parti d'un article que ce confrère avait écrit il y a quelque temps sur la supposée mort tragique d'un jeune homme dans le convoi supposé de la première ministre Tomega Doubé. L'information s'était révélée pas avérée, et dans les jours qui avaient suivi, Liberté avait écrit un rectificatif. Mais entre-temps, le ministère public et la primature avaient porté plainte. Un jugement a été prononcé en première instance. Liberté condamnée. Liberté a fait appel et la cour d'appel vient de confirmer en grande partie la peine de justice prononcée contre Liberté. Pourtant, pas express, c'est une plainte que M. Charles Kokoubi Gafan a porté contre un article de cet organe. Le directeur de Tampa Express est convoqué à la HAC. La HAC dit que le directeur n'a pas pu apporter les preuves de sa bonne foi, de sa justification. Voilà les deux sanctions avec le constat quand même amer que nous nous retrouvons aujourd'hui amputés de deux organes. Et l'homme.
C'est triste. Vous savez, en venant dans ce studio, j'en discutais avec un confrère tout à l'heure. Vous avez constaté que même l'ambiance qui règne dans ce studio tous les jeudis a pris un coup. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais...
Il dit, nous avons comme la gueule de bois,
voilà,
même si nous ne sommes pas soleillés.
Effectivement, c'est-à-dire que d'habitude, les jeudis, on est plus décomplexé et puis plus décontracté que cela. Mais aujourd'hui, c'est crispé, l'ambiance et l'atmosphère, à cause de ces deux nouvelles. La première relative à la suspension du journal Liberté par la HAC, selon les informations sur à la demande de la cour d'appel qui demandait à la HAC d'exécuter sa décision, et la seconde qui est une décision de la HAC suspendant le journal Tampa Express. C'est deux confrères pour qui on a beaucoup de respect, l'un pour l'expérience, toute l'expérience qu'il draine dans le domaine de la presse, et l'autre pour d'abord son caractère, enfin sa casquette universitaire, et aussi par rapport aussi à la précision de ces sujets. Maintenant, ce qui nous embête aujourd'hui tous, c'est que tous les journaux critiques qu'il y a sur le marché aujourd'hui sont en train de prendre un coup. Et là, ça fait poser un certain nombre de problèmes. Maintenant, on va voir aussi parce que là aussi, il va falloir que justement on puisse véritablement revoir un certain nombre de choses. parce que j'ai comme l'impression aussi que quand on est parti relire le code de la presse, comme on a fait ce débat, on l'a refait plusieurs fois, mais il y a toujours des choses qu'il faut dire. Vous savez, aujourd'hui, quand on est un journaliste, ce n'est plus la peine de préciser que l'outrage à l'autorité, les insultes, les diffamations contre l'autorité, les personnalités étrangères, etc., vont directement dans le cadre pénal. Alors que c'était des cas, ou des sujets, des délits qui étaient connus autrefois par la HAC avant l'entrée en vigueur du code de la presse. Et donc ça, je crois qu'il y a beaucoup qui n'ont pas vu ce côté de la chose. Donc aujourd'hui, toute personne qui se fait offenser en tant qu'autorité, personnalité étrangère, etc., est directement en justice contre le journal, ce qui constitue en fait une arme contre la presse. Alors qu'autrefois, au niveau de la HAC, on pouvait justement débattre ou bien connaître de ce sujet avec les dispositions qui suivent sur le plan légal. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, on se sent, parce que ce code de la presse, tout ce qui se passe aujourd'hui relance le débat sur le code de la presse en général, en réalité. Et en fait, ça nous met dans une posture de tristesse aussi, hein, parce que savoir que deux confrères sont partis comme ça pour 3 mois de suspension, je ne dis pas que les faits pour lesquels je ne rentre pas encore dans le fond de l'affaire, mais sur la forme, j'aurais préféré véritablement qu'ils puissent bénéficier d'une autre forme de décision plutôt que celle qui les frappe aujourd'hui.
Voilà, Jean Legrand Polorini, c'est le constat ce matin, un certain malaise à notre sein au studio ici dans le monde de la presse en général. Et l'homme a lâché un mot. Même si ça doit... Enfin, il faut avoir le courage de dire certaines choses. C'est les journaux supposés ou bien qui sont assez critiques vis-à-vis de la gouvernance. C'est ces journaux qui écopent de ces sanctions. Liberté, Tampa Express, aujourd'hui, le triangle des enjeux dont le changement nous dit qu'il vient d'être assigné en justice. Hier, L'Alternative ou encore The Guardian, et si je n'en oublie, c'est des journaux qui révèlent quand même les insuffisances de la gouvernance. Et ça peut donner l'impression à certaines personnes que quelque part on ne verrait pas d'un bon œil ce qui est presque critique aujourd'hui.
Oui, ça, vous savez, comme tu l'as dit, moi personnellement je suis un peu dérangé quand il s'agit de parler des confrères, parce que c'est notre domaine en fait, et voir un confrère privé de son gagne-pain pendant 3 mois, c'est beaucoup. Quand vous prenez Liberté, 3 mois, ça fait presque 60 parutions qui ne vont pas sortir. Tampa Express, je crois c'est un bimensuel, ça fait quoi, 6. Mais déjà c'est un peu dérangeant, et comme tu l'as tantôt si bien dit, on a l'impression comme si ce sont les journaux critiques qui sont dans le viseur de la HAC. Je n'invente rien, mais c'est l'impression que cela laisse percevoir. D'autant plus qu'il y a quelques années, d'abord, c'était l'Indépendant Express.
Ah oui, j'avais oublié de le mentionner. Lui, il a carrément vu son récépissé retiré.
Il y a Fraternité aussi.
Après Liberté, revient. Un petit mot à la mémoire de notre confrère Joël, Pépère Sivignon Ega.
Voilà, donc, autant de décisions qui nous amènent aujourd'hui, comme l'homme l'a dit, à vraiment revoir notre copie, parce qu'avec le nouveau code de la presse, vous ne savez pas à quelle sauce vous serez mangé. Donc, ce qui nous amène plus à beaucoup faire de l'autocensure. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui les journaux auront le courage d'aborder certaines questions qui fâchent, même si c'est vrai que nous devons fondamentalement faire notre travail de recoupement avant de publier une information. Moi, je dis que personne n'est parfait. Il peut arriver que nous fassions des erreurs. Mais l'autorité doit comprendre que notre travail est d'utilité publique. Nous faisons un travail pour vraiment alerter, véritablement sans intention de nuire. Sans intention de nuire, il faut le préciser. Et comme il a dit, moi je voudrais vraiment qu'on essaie de réfléchir. Est-ce que ce serait possible qu'on revienne à une mesure beaucoup plus adoucie? Beaucoup plus adoucie, parce que quand on vous suspend pour 3 mois, ma foi, c'est pas une chose aisée. Je ne rentre pas également dans le fond du sujet parce que je n'ai pas participé au débat. Je ne sais pas véritablement de quoi il en est question. Mais je sais que le journal avait présenté, Liberté avait publié un démenti, avait reconnu quand même cet tort sur cette affaire. Et nous étions de ceux qui disions
que nous supposions que vraiment la primature allait revoir sa copie, vraiment, pour essayer de calmer le jeu. Mais nous avons, comme tu l'as dit, constaté que la décision a poursuivi son cours et aujourd'hui, le confrère, ce n'est pas la première fois, il écope encore d'une suspension de 3 mois. Vraiment beaucoup de courage aux confrères. Et moi, j'invite vraiment nos confrères à vraiment mettre beaucoup de gants parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, la force de notre côté. Nous ne pouvons pas aujourd'hui rapidement inverser la tendance, mais vraiment prenons des gants jusqu'à ce que la mesure puisse changer et que nous puissions retrouver un climat beaucoup plus favorable.
Et à ce niveau-là, Jean, nous risquerions d'avoir une presse à minima.
Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre, je l'ai tantôt dit. Nous n'avons pas de choix, tu vois, parce que quand vous osez aller vers un terrain un peu glissant, vous êtes coupé d'une sanction. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si autant que nous sommes ici, nous tous nous le faisons, nos journaux seront fermés. Nos journaux seront fermés parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'appliquer la loi pure et dure aux médias. Ça, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, traiter vraiment un sujet d'investigation ou bien toucher à une autorité, si vous n'avez pas vraiment les coudées franches, je vous dis, vous êtes vraiment en péril. On a parlé du Petrol Gate aujourd'hui. Après tout ce que le journal a publié, je ne sais pas aujourd'hui où en est ce dossier, malgré les investigations qui ont été faites. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la presse vraiment est dans une situation vraiment compliquée, vraiment, vraiment compliquée. Je me demande, quand est-ce que nous aurons une relecture de ce code vraiment pour que nous soyons plus à l'aise de faire notre travail? Même merci. S'il faut vraiment que nous allions responsabilité à notre
suite
travail.
À ces deux sanctions, Zeus comme Yaziadouvo, qui était jusqu'à hier membre de la HAC, a sorti une déclaration pour dire qu'il récusait sa signature sur les deux sanctions et en même temps, il démissionne de la HAC pour les motifs qu'il expose dedans. Mais Michel, encore une fois, pour le cas de liberté, c'est les suites judiciaires de l'article sur le jeune homme qui aurait trouvé la mort dans le convoi de la première ministre, jugé dans une première instance, liberté fait appel et la cour d'appel confirme la peine. Pour Tampa Express, la HAC dit relever que dans cette affaire de la plainte de M. Gaffin, c'est la troisième fois que le confrère est convoqué devant la HAC. La HAC dit relever des violations répétées des règles professionnelles. Alors, il y a la liberté de la presse qui est sacro-sainte, mais comme l'ont dit un peu Elom et Jean, il y a également le côté de l'encadrement de la liberté de la presse par la loi.
Ah oui.
Et également les exigences professionnelles qui sont attendues des journalistes pour qu'on puisse allier et la liberté de la presse, et le respect de la loi, et les exigences professionnelles.
Ah oui, vous savez, dans l'un ou dans l'autre cas, c'est regrettable ce qui vient d'arriver, que vous prenez liberté, par exemple, et comme le disait Jean, 3 mois de suspension, si vous êtes journaliste ou vous êtes de la presse, ça va vous faire mal. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est aussi fondamental à relever, la HAC n'a fait qu'exécuter qu'une décision de justice. Et au moment où la liberté avait fait appel et étant entendu que il avait, en tout cas le journal avait apporté un démenti, je croyais. Je pensais que peut-être si sanction il devait avoir, peut-être elle devait être à minima ou moins grave. Mais comme tu l'as dit, il y a aussi les exigences professionnelles que nous devons, il ne faut pas le nier, que nous devons nous appliquer, en tout cas regarder dans l'exercice même de notre métier. Vous comprenez? Et donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je me sens triste de constater que, avec le nouveau code de la presse, mais ma foi, nous ne sommes pas en sécurité. On n'est pas en sécurité. Et nous serons obligés d'aborder les sujets d'une manière ou d'une autre. Parce que nous nous voulons éviter de tomber dans, en tout cas, des erreurs. Or, dans l'exercice de notre métier, il arrive qu'on faute, il arrive qu'on commette des erreurs. Mais si ces erreurs sont avouées ou sont reconnues, est-ce que les sanctions, est-ce qu'on ne peut pas voir ça au minimum? C'est de ça il est question. Sinon, globalement, disons que c'est une, les deux situations là, ou voire même plus que ça, ça ne fait pas une bonne publicité pour notre pays, à l'heure où nous sommes. Parce que nous allons, dans quelques mois, aller aux élections, et la HAC qui est censée vraiment réguler la bonne couverture médiatique et tout, et cette HAC là, comment les gens, les observateurs vont regarder cette institution qui veille sur la liberté de la presse, et c'est de ça aussi qu'il faut voir. Disons que nous sommes malheureux de vivre une situation pareille.
Merci, c'est la triste réalité. La HAC si prompte à vouloir appliquer la loi pour la liberté de presse, mais laquelle HAC même se retrouve un peu dans l'illégalité parce que les membres sont hors délai. Comment est-ce que quelqu'un dont le mandat a expiré depuis puisse avec une certaine célérité sanctionner les autres pour défaut de respect de la loi? C'est des réalités de notre pays qui, mais comme vous le dites, mais ça ne fait pas vraiment...
Non, à ce niveau-là, SAS, je pense que on ne peut pas à proprement dire que la HAC est dans l'illégalité. On ne peut pas à proprement dire, puisque c'est vrai qu'ils sont hors de l'air, mais la loi, la même loi dispose qu'ils sont là jusqu'à ce que l'élection... Mais ce que nous disons, c'est que quand le délai a expiré, mais nous le disons ici, les institutions qui régulent la vie de l'État, on ne badine pas. Pourquoi on traîne, puisque le Togo n'a pas connu de tremblement de terre à ce moment-là, pourquoi on traîne? Je veux dire tout simplement qu'il n'y avait pas cas de force majeure. Ceux qui sont là à la HAC, c'est nos frères et sœurs. Nous n'avons rien contre eux.
Non.
Si on les renouvelle, nous, on n'a pas de... On n'a rien à dire. Mais si on veut changer, le temps est arrivé. Il n'y avait pas cas de force majeure. Pourquoi on n'a pas voulu...
Je voulais juste dire, j'ai parlé de des exigences professionnelles quant à nous-mêmes. Mais si on veut être exigeant vis-à-vis des autres...
Malheureusement, c'est ce que nous constatons.
Il faut être exigeant sur toute la ligne. C'est tout le constat que je voulais faire. Oui, Magloire.
Non, je crois que c'est sérieux tout ce que nous disons. Et à mon avis, peut-être dans les jours à venir, on va devoir consulter les oracles pour pouvoir choisir les mots qu'il faut mettre dans nos articles ou les mots prononcés dans ce studio. Vous l'avez vu, l'ambiance, elle est terne. C'est un constat. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour la presse togolaise? Moi, je l'ai dit, nous, on fait partie de la jeune génération, mais tout ça, ce que nous, ça ne nous encourage pas. Dis-nous la vérité. On dit tout le temps, la presse togolaise doit se professionnaliser. Oui, d'accord, c'est l'idéal. Mais ce que je sais de mon jeune âge de journaliste, je dis, on n'est pas les derniers de la classe. On voit à peu près ce qui se fait dans la sous-région. On n'est pas les derniers de la classe. Alors, est-ce qu'on a besoin de mettre toute cette armada là autour pour qu'on se retrouve aujourd'hui à dire que le code de la presse qu'on a tant créé hier est peut-être la panacée, se retrouve peut-être un gros traquenard qu'on nous a tendu? Parce que c'est l'impression que beaucoup de journalistes togolais ont aujourd'hui. Alors, moi, je dis, ce qui est un peu choquant à mon niveau, c'est que pour le cas de Liberté, par exemple, Liberté a écrit un article, après, il s'est retraité pour dire, il y a eu erreur, et donc, directement, il s'est excusé. Est-ce que moralement, on ne peut pas s'en tenir à ça? Maintenant, derrière, on nous informe que le ministère public s'est saisi de l'affaire et a fait ce qu'il devrait faire jusqu'à ce qu'on ne sanctionne le journal. C'est bien. Maintenant, dans ce pays-là, tous les dossiers dont on parle tous les jours dans ce studio, la presse traite beaucoup de dossiers de la République. Le ministère public, il était où? Moi, j'ai peur parce que je dis, je ne veux pas sortir un mot pour qu'après on m'appelle pour dire on a besoin de toi là, tel jour. Mais disons-nous la vérité. Si c'est cette ambiance qu'on veut dans les studios de radio, de télé au Togo, je dis on ne fait pas du bien à la presse. Ça au moins, ayons ce courage de le dire. Nous là, c'est dans ça qu'on est. On essaie de participer à notre manière au développement du pays. On est des humains. On peut poser des actes, peut-être qu'ils ne sont pas vraiment ce qu'on devrait faire. Mais si à un moment donné, on se rend compte que ben, c'est ce qu'on devrait faire plutôt qu'on a fait ci et qu'on s'excuse, mais pourquoi tenir forcément à aller à la sanction, à aller à la sanction? Peut-être l'idée derrière, c'est d'avoir une presse très alignée,
aux ordres,
et ce serait très dommage. Parce que n'oublions pas, c'est nous qui courons derrière tous les grands projets de ce monde, MCC, quoi, les bailleurs. N'oublions pas que dans leurs critères, ils ont aussi de ces indicateurs-là. Mais si, parce qu'on a réussi à décrocher un programme, qu'on semble ignorer le reste, je dis, les heures qui arrivent ne seront pas trop gaies.
Je vais dire un mot. Deux choses, justement. La première, c'est qu'il est très important pour... Et ça, c'est un message que je lance à toutes les personnes et par rapport à la presse. Quelle initiative aujourd'hui récompense les journalistes, à part les lauriers du journaliste d'impact, dont je salue les initiateurs qui constituent le groupe, le G5, et puis quelques initiatives éparses. Quelles initiatives vous avez vues dans ce pays pour dire ça, c'est la meilleure entreprise de presse de l'année? On vous donne 5 millions.
Ça y est, initiative institutionnelle.
On vous dit, bon, ça, c'est la meilleure télévision, la meilleure radio de l'année, on vous donne 10 millions. Est-ce que ça, ce n'est pas des éléments motivateurs? Non, dites-moi, sincèrement. Hein, parce que ces 5 dernières années, on a étalé des sanctions contre des journalistes. D'accord? Je ne rentre pas dans le fond de l'affaire. Mais sur les 5 dernières années, quelles sont les initiatives qui ont été prises pour encourager la presse? Citez-moi une seule. En fait, c'est en ça qu'on est triste. Parce que quand on voit... On doit nous encourager aussi. C'est-à-dire, mes confrères ont parlé des affaires qui ont été révélées dans ce pays par la presse. En août 2017, la presse était le baromètre de la crise politique. Si vous voulez savoir ce qui se passait au Togo en 2017, il fallait lire les journaux. Il fallait suivre la radio, suivre la télévision. Les gens voulaient suivre la crise politique au Togo, mais c'était la presse le baromètre. Puisqu'il y avait des informations contradictoires d'un côté comme de l'autre, et les gens se faisaient leur petite idée de la situation. Mais, attends, qui a parlé? C'était la presse qui faisait son travail. On demandait de l'argent à qui? Personne. Mais les gens travaillaient. On n'avait sanctionné personne. Et puis il y avait quand même de la richesse. Tout le monde dit, c'était au moment fort de la crise. Je prends juste un exemple. Je prends le deuxième exemple. La CAN 2017, CAN 2013. Un rapport longtemps caché. La presse l'a révélé, oui ou non? En 2019-2020, c'était nous, la Nouvelle Tribune, qui avons révélé ce rapport exclusivement. Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Rien. Je prends... Il y a d'autres affaires. Petrolgate, par exemple. C'est vrai qu'il y a eu un long feuilleton dans la presse, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient finalement de ceux qui sont les acteurs de ce feuilleton?
Merci,
rien.
Merci.
Donc, on a... Non, ça, franchement,
je sais.
Il faut que... Non, franchement, il faut que... À un moment donné, il faut...
Non, je vous comprends.
Là, je suis en train de parler. Je ne mets pas mon cœur, mais il faut que je mette la raison. Parce que, vous savez, au-delà de ce que nous sommes en train de dire, c'est la profession des gens. Vous comprenez, c'est la profession des gens. Aujourd'hui, la loi dit pour être journaliste, il faut un diplôme. Il faut avoir un diplôme en journalisme. Par exemple, moi, j'ai un diplôme en journalisme, d'accord? Ceux qu'on a sanctionnés, ils ont peut-être un diplôme en journalisme aussi. Mais demain, s'ils ne sont plus journalistes, ils seront quoi? Ils seront... Non, dites-moi la vérité, ils vont faire quel job? Parce que c'est les emplois aussi qu'on est en train de tuer. Donc, aujourd'hui, il faut qu'au niveau de l'autorité... que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin. La presse est un partenaire. La presse ne peut jamais
Merci.
Être un adversaire.
Nos sentiments de confraternité renouvelés hein, à Liberté, à Tampa Express et au Train des Enjeux, en entendant les suites de la plainte qui pèse sur lui. Mais déjà, je me sens malheureux parce que les auditeurs du Club de la Presse savent combien d'informations nous tirons de Liberté au jour le jour et de Tampa Express quand ces journaux paraissent. Eh bien, pendant 3 mois, c'est toute l'émission qui se retrouvera privée des informations des colonnes de ces journaux. Et on va terminer avec Jean Legrand. La tradition rappelle que un jour, on a demandé au grand sage Ésope de dire la meilleure des choses. Et Ésope aurait dit que la meilleure des choses que Dieu a créées, c'est la langue. Et on lui demande au même Ésope, quelle est la pire des choses? Et le même Ésope répond que c'est la langue. Alors, on peut paraphraser Ésope en disant que le phénomène zémidien, c'est à la fois la meilleure des choses pour les services que les motos nous rendent, mais ça peut virer également à la pire des choses. C'est un peu l'essentiel de ton article, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Nous avons titré l'article zémidien, ce métier qui tue à petit feu, vous savez. Ça fait plusieurs années que le phénomène a vraiment pris de l'ampleur dans nos pays. Ça avait commencé par le Bénin, aujourd'hui au Togo. Vous avez le zémidien.
C'est allé dans d'autres pays aussi.
Donc,
hein.
Voilà,
on parle de taxi-moto un peu partout en Afrique.
Et c'est un métier qui était au début dans l'illégalité et maintenant qui, depuis quelques années, on a décidé de le formaliser. Aujourd'hui, vous avez une kyrielle, je vais dire, de société de taxi-moto. Vous avez Gozem et tout, je ne vais pas faire la publicité. Et nous nous sommes intéressés à ce domaine véritablement parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est un domaine que nos autorités sont en train de promouvoir. C'est-à-dire on facilite l'installation de ces sociétés. Mais en même temps, quand vous regardez le quotidien de tous ces zémidiens, je ne sais pas si vous connaissez un zémidien qui est fier de dire qu'il est zémidien. Je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas trouvé à travers cette enquête parce que...
Un zémidien
qui dit qu'il est fier d'être zémidien, d'être sur la moto du matin jusqu'au soir et rentrer à la maison. Moi, je n'en ai pas trouvé. Parce que, ma foi, c'est un métier vraiment éreintant. Et quand vous faites une analyse auprès de ces personnes, vous vous rendez compte qu'ils ont vraiment de graves ennuis de santé parce que quand vous êtes là du matin au soir, les courbatures, parfois certains même n'arrivent plus à satisfaire sexuellement leur femme le soir et ça crée des problèmes. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que ce métier-là, qui est ma foi dommageable pour la santé des pratiquants, l'État essaye d'encourager ce métier parce que on se dit qu'aujourd'hui, le zémidien est une alternative au problème de chômage. Mais à long terme, qu'est-ce que ces gens-là qui sont dans ce domaine deviennent? Il faut penser à ça. Et moi, je me dis que l'État doit penser à une véritable politique vraiment de transport urbain et politique d'emploi. Parce que le zémidien, aujourd'hui, beaucoup d'élèves, d'étudiants, quand vous n'avez pas de boulot, c'est zémidien. Mais est-ce qu'on est en train de penser à l'après-emploi de ces gens-là? Quand ils vont finir leur carrière, la santé est totalement abîmée. Et ces malades-là, c'est encore l'État qui va s'en charger. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut que l'État réfléchisse vraiment. Si on va prioriser les transports en commun, mais qu'avec le temps, qu'on essaie vraiment de voir ce qu'il faut faire. Parce que à la longue, je trouve que ce métier-là, nous allons avoir beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui vont mal finir leur vie. Et cela va retomber sur le dos de la société.
Merci. Oui, Michel.
Oui, félicitations à Jean pour cet article. Je pense qu'il a touché du doigt un problème sérieux. Parce que, en fait, il a dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un, il va vous dire qu'il est fier d'être zémidien. Il ne peut pas. C'est à défaut. Et il citait des élèves, des étudiants, il a oublié les enseignants et d'autres fonctionnaires qui le soir font aussi one-to-one-to avant de rentrer.
Il y a même des policiers, gendarmes, même militaires qui font ça.
Voilà. Donc, c'est pour dire que ce domaine-là, c'est un domaine, c'est vrai, ça permet à des gens de vivre aujourd'hui, mais demain, le tort que ce métier les cause est vraiment difficile à gérer. Et tu l'as dit, c'est le problème de santé. On peut le faire en passant, mais en faire un métier, c'est extrêmement dangereux. Et nos frères et sœurs zémidiens, il y a maintenant des femmes dedans, qui nous écoutent, savent que nous n'avons rien contre eux. Nous disons, et ils savent, ils nous comprennent. Ils savent que ce que nous disons, c'est pour attirer à leur avantage. Parce que c'est un métier, pour venir ici, j'ai pris un zémidien, pour arriver dans ce studio, c'est un zémidien. Il m'a rendu service. C'est bien. Mais je sais, quand, regardez, et l'habitude, quand les zémidiens sont en groupe,
allez-y, mettez-vous un peu à côté et il faut les regarder. Vous allez lire la grande souffrance, la misère, l'incertitude de demain, les frustrations dans les yeux de ces gens-là.
Oui. Et parmi eux, des instruits aussi.
Des instruits, non. Ouais. Parmi eux, il y a des instruits.
Maîtrisards.
Oui, des gens ont fait même des études universitaires.
Et beaucoup d'énervement.
Beaucoup d'énervement.
Dans leur ton, dans leur comportement.
Oui. Parce que quand on fait un concours, ceux qui ont son diplôme, ils vont. Et le peu qu'ils ont, ils vont y mettre. Après, ils ont échoué. Parce que le nombre étant tellement élevé. Ils n'ont pas la chance. Et ils reviennent recommencer. Toujours.
Justement,
ils reviennent recommencer.
Niveau, quand il est écrit que le Zébidien est considéré comme le refuge des diplômés sans emploi.
Ah oui, c'est faux. C'est faux. C'est exact. C'est pas faux, j'allais dire. C'est exact. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un diplôme et vous n'avez rien à faire, on vous dit bon. Et il y a un aspect dedans aussi. C'est les accidents. On en perd tous les jours des vies. Tous les jours des vies. Des immigrants. Pendant ce temps, certains sont quelque part. C'est la belle vie.
Merci Michel. Il est 12h, passé de 2 minutes. Souffrez qu'on suspende ici. Le temps que Michel transmette les intentions de Canal FM à nos partenaires. Puis nous revenons pour les auditeurs.
93.5. Canal FM.
À présent, nous ouvrons les micros pour recevoir les commentaires et questions des amis auditeurs. On m'annonce le premier en ligne. Bonjour.
Oui, Sas, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Ça va chez nous.
À la fin, oui. À la fin,
oui. Oui, nous vous écoutons.
Ah bon, comme tu avais parlé le cabier, là, je te parle en cabier, alors.
Ah ok, allons-y.
Bon, sinon c'est l'évangéliste Senghor. Bon, je voudrais vraiment porter à votre connaissance pour qu'ensemble nous allons analyser. Bon, sur le Congo, RDC, à l'époque appelé Zaïre, et le Togo. Bon, ces deux chefs d'État, je veux parler de Mobutu et Adama. Mais est-ce que on ne voit pas que ces chefs d'État-là ont bien gouverné d'une manière qui est surtout Mobutu. Bon, le Togo fait 25 fois le Zaïre. Mais ce monsieur a pu quand même gouverner ce pays qui n'a pas de problème à l'époque. Bon, autant de Yadema. Parce que Yadema disait qu'on l'a corrompu avec 1 milliard 500 millions. Mais vous ne voyez pas qu'au Togo aujourd'hui la corruption. Les gens ont plus de 10 fois ce que Yadema a dit qu'on l'a corrompu dans ce pays. Hein? Ça. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, l'Afrique est un peu malade de ses gouvernants. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. L'essentiel, c'est que nous nous sentions interpellés individuellement et collectivement. Le suivant, bonjour.
Oui, alors, bonjour, monsieur.
Oui, Jean. Oui, c'est monsieur.
Oui, monsieur Ange.
Ange.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, bon, j'aimerais intervenir à propos des choses de Zemigara.
Oui.
Oui, c'est effectivement la même chose que le gouvernement veut faire. Il veut renvoyer. Et nous, les petits jeunes qui cherchent les choses au bord de la voie, on va un peu et puis il veut nous renvoyer. On va rejoindre les gens des Émigrants et puis tout ça, on va se faire des accidents sur les routes, se blesser, se retrouver tout ça à l'hôpital. Et ça, il nous veut dans ce pays. Non,
à ce niveau-là, je peux vous dire que la problématique de l'occupation des voies, nous-mêmes, les médias, nous les dénonçons depuis. On peut faire un son bouja, mais en dégageant les trottoirs et les places publiques pour les piétons, pour que les piétons aussi puissent circuler.
Oui, ça on sait tous. Mais concernant les kiosques, et bon, c'est pas bon, si on dit on parle d'encombrement de la voie, c'est pas toutes les places qui sont occupées, la décision qu'ils ont prise de gaspiller tout le monde là. Je ne sais pas si vous-même vous circulez dans la vie, vous voyez.
Nous circulons et nous en débattons, nous cherchons à bien comprendre comment ça va se faire. Mes chers amis, c'est également une question de sécurité publique que les voies publiques soient dégagées, que chacun puisse aller venir. Hein, maintenant, ceux qui veulent faire leurs affaires, il y a les marchés, il y a les magasins à louer. Mais bon, on ne peut pas faire son affaire sur la voie publique. Merci. Le suivant, bonjour.
Monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Je voudrais porter une conscience à la gloire de Dieu. Ceux qui nous disent, ceux qui n'aiment pas qu'on les critique. Quand vous critiquez, vous grandissez.
J'ai parlé directement dans le téléphone, puisque nous vous percevions en qualité.
Oui, c'est à votre endroit, à la corporation journalistique. Et surtout, c'est ceux qui sont au pouvoir qui n'aiment pas qu'on les critique. Quand vous critiquez, vous grandissez. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun. La vie est sacrée. Quand vous attendez à la vie de quelqu'un, tout ça vous allez.
Allô?
Vous acceptez quand vous critiquez. Vous grandissez.
Merci. C'est un principe. Celui qui veut grandir doit accepter qu'on le critique et il en tire des enseignements. Le suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour, mon patron.
Bonjour.
C'est comment?
Patrick.
Oui, ça.
Allez-y.
D'accord. Bonne guérison d'abord à vous. Hein.
Merci.
D'accord. Alors, j'aimerais partir en RDC puis revenir au Togo, quoi. Pour ce qui concerne l'arrivée du pape en RDC, monsieur Sass, c'est Mobutu qui disait que le zaïre est comme un revolver et que la gâchette se trouve au zaïre.
Non, c'est-à-dire... l'Afrique est comme un revolver, ouais. Dont la gâchette se trouverait au zaïre.
C'est ce que j'ai dit, Sass.
Non, vous avez inversé.
C'est vrai? Bon, oui. Ok, sinon, c'est ce que je voulais dire, si j'ai investi, c'est ça. Sinon, c'est l'Afrique qui est comme un revolver.
Voilà, et voilà.
Je trouverai là-bas. Ok. C'est pour dire que quoi? Et le pape qui est arrivé, vous avez bien posé la question. Qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice pour RDC? Mais le monsieur qui est arrivé, c'est bien, il a célébré la messe et il y avait beaucoup de personnes. Et puis, c'est tout. Actuellement, le pic. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Le pic des problèmes, c'est le conflit entre elle et le Rwanda. Mais je serai à la place du pape. Après la messe, pourquoi ne pas prendre Tshisekedi? Heureusement que c'est un chrétien, tout comme Paul. Paul aussi, c'est un chrétien. Pourquoi ne pas voyager avec Tshisekedi pour descendre à Kigali et parler avec le président rwandais et trouver un consensus pour arrêter tout ce qui se passe? Je pense que c'est ça même qui doit être l'être motif du pape, que de venir faire la messe, tant, machin, c'est pas ça. Il est venu pour... Il parle des mecs qui gênent l'Afrique et la RDC. La mer, là, c'est quoi? Moi, je dirais même c'est la mer blanche. Pourquoi ne pas aller sur le podium de l'ONU et faire ce discours?
Autrement dit, Patrick, vous demandez au pape de continuer son travail de missionnaire en rassemblant et Félix Tshisekedi et Paul Kagame et trouver la solution au problème qu'il est venu dénoncer.
Tout à fait.
Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci, c'est pour, bien dit.
Et pour finir, là, je reviens au Togo pour vous demander, parce que vous êtes du domaine, ce qui s'est passé pour Liberté, puis pour Tampa, là. Tampa Express. Est-ce que, puisque le monsieur, quand il vient vous l'inviter, il décortique bien l'actualité, comme ils sont suspendus, est-ce qu'il va continuer pas au moins venir nous parler, nous éclaircir sur l'actualité? C'est là où je voulais venir.
Je peux vous dire que c'est le journal qui est suspendu et pas, là, et pas l'homme.
D'accord, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne émission.
Merci. Le suivant.
Hello, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est Ali.
Ali, oui.
Oui, quand nous parlons... vous nous dites de ne pas parler comme si on veut du mal pour le pays. Non, on est direct dans la parole pour pouvoir choquer les dirigeants parce qu'on a prié, ils n'ont pas, on a parlé, ils n'ont pas compris. Imaginez, s'il vous plaît, les sanctions, par exemple, contre vos collègues, sont faites en fonction de leur parution. Moi, ce que j'ai compris. D'autres sont bi-hebdomadaires, ou bien, et d'autres sont quotidiens, mais c'est suivant trois mois. Ce n'est pas le nombre de parutions qui doit être considéré. Bon, laissons le côté là. Vous nous dites clairement qu'ils sont hors mandat. Ça, c'est constaté. Et on veut mettre bémol qu'ils sont toujours en place jusqu'à l'arrivée des nouveaux. S'il vous plaît. Un pays qui se comporte comme ça, je vous le dis, se détruit. On ne veut pas détruire le Togo, mais les dirigeants détruisent l'objectif. Et imaginez que l'ambiance que vous développez dans le studio là-bas, et ça fait vivre le pays, l'ambiance là est ternie. Et on veut toujours mettre la peur dans le cœur des Togolais. Je vous posais la question il y a de cela 3 mois, 4 mois, que celui qui utilise la peur pour diriger, pour faire quelque chose s'appelle comment? Il s'appelle simplement terroriste. Qui utilise la peur maintenant au Togo, c'est à la fois c'est les dirigeants et leurs complices qui sont autour d'eux pour terroriser chaque fois la population. Et voilà que c'est, les sanctions là sont encore une forme de peur qu'ils ont encore mis dans le cœur des Togolais. Mais ils oublient que peu importe ce qu'ils vont faire, le moment est là pour que la population se développe. C'est pas leur agitation là qui va faire
l'ami
quoi
que Ali.
Ça pour reculer le Togo. Le Togo est fait pour avancer.
L'ami Ali, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut dialoguer un peu?
Allez-y.
Je pense que nous devrions tous faire afin que nos espèces de liberté soient maintenues, conservées et confortées. Vous m'avez compris?
Oui, écoutez ceci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons au suivant. Il y a d'autres également qui ont des choses à nous dire. Oui, bonjour l'ami en ligne.
Allô?
Oui.
C'est Armand.
Armand, nous écoutons.
Oui, d'abord, je voulais d'abord parler des émigrants et après j'irai au Congo.
Mm-hmm.
Et d'abord, félicitations pour Jean Le Grand Pollorini pour son article sur les émigrants.
Oui.
Moi, c'est vrai que j'ai côtoyé beaucoup d'amis qui ont fait... je n'appellerai pas ça ce métier, mais un pis-aller. Parce que les émigrants, comme on le dit, quand tu as un petit problème et que les revenus ne sont pas réguliers, tu passes, tu as une moto, tu fais les émigrants pendant un certain temps pour t'en sortir. Mais il ne faut pas vraiment que ces émigrants deviennent un métier.
Mm-hmm.
C'est des problèmes. Comme il l'a dit, d'abord, je peux faire une anecdote peut-être. Un émigrant, il se couche, il revient tardivement et sa femme le touche légèrement et il commence à crier « Oléya, Oléya !» Tout ça là, d'abord, un, pour les foyers, de deux, c'est une jeune, des jeunes qui sont complètement cassés.
Oui.
Il va falloir que les gens puissent faire de tout pour qu'on puisse trouver une solution.
Merci, merci.
Aussi,
oui.
Concernant le Congo, nous savons tous que le Congo, c'est une chasse gardée des multinationales. Les multinationales, au fait, ils sont à la solde de tout. Ça, il faut vraiment avoir... Le pape devrait avoir ce courage. Lui, il en sait plus que tout le reste. Et lui, il a plus... Bon, on peut dire un côté moral, religieux, qui peut... faire la pression sur...
Et un président auditeur demandait que le pape aille beaucoup plus loin que sa dénonciation.
C'est tout. Sinon,
merci.
Le reste, c'est de l'hypocrisie.
Merci beaucoup, Armand. Nous avons encore le temps pour un, deux auditeurs. Bonjour, l'ami.
Oui, allô, bonjour, comme de la presse.
Oui.
Voilà, je salue toute l'équipe là-bas.
Merci.
C'est Elom depuis Agouer.
Elom d'Agouer, nous écoutons.
Voilà, j'aimerais intervenir sur le sujet des émigrants.
Oui.
Vraiment, vraiment, c'est une situation un peu accablante. Parce que moi, je suis véhiculé, un véhicule personnel. Et s'il m'arrive de faire des courses en ville, juste pour 1 heure, 2 heures de temps, et de revenir à la maison, c'est vraiment tout un souci. Et voir des gens qui circulent toute la journée. Vraiment, je vois déjà tout ce qu'il en souffre, mm-hmm. en tout cas.
Oui.
Mais nous prions Dieu de les aider et tout ira bien quand même.
Merci.
Et j'aimerais continuer par un autre sujet pour les journalistes. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des indemnités ou bien des soutiens que l'État offre aux presse privées? Parce que je me demande comment ils arrivent à s'en sortir réellement. Si vraiment vous pouvez me répondre à cette question.
Merci, Elom d'Agouer, le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Monsieur Nyamavo. Juste pour répondre à ceux qui ont intervenu par rapport au pape.
Oui.
Il a parlé, il s'est adressé directement aux Occidentaux et leurs complices, chefs d'État qui sont au pouvoir, de penser. C'est-à-dire, il a dit que la façon dont les Congolais saignent, ils saignent de la même manière qu'eux. Donc ça voudrait dire que s'il y a de bonnes oreilles à écouter, On n'a pas besoin de faire des tournées pour leur parler. S'ils sont conscients, ils n'ont qu'à cesser la guerre. Qu'ils ne visent pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas de l'or, l'Afrique n'est pas quoi à venir piller. Ils n'ont qu'à laisser les Africains à l'Afrique. Voilà quoi. Ils n'ont qu'à avoir des oreilles pour écouter le message d'un homme de Dieu qui peut parler et ça va toucher le cœur. Si ça touche ton cœur, pourquoi on va venir encore te faire la cour chez toi? Je vous remercie.
Je vous en prie.
93.5. Canal FM.
Eh bien, chers amis Jean, Magloire et l'homme Michel, vous avez écouté les auditeurs, se sont intéressés à divers thèmes. Certains même sont allés au-delà de ce que nous avons développé. Vous avez à présent chacun 90 secondes pour une précision assortie de votre carton. Commençons par le chef canton, Michel Fadia.
Je voulais peut-être par rapport à celui qui a parlé de... Je pense qu'il a débordé un peu, il est sorti un peu du cadre du débat, mais bon, celui qui disait que on est en train de déguerpir ceux qui ont fait des conteneurs sur les voies publiques, qui vont aller rejoindre les rangs des immédiats. Et tu l'as recadré en disant que nous-mêmes ici, nous débattons tous les jours pour dire que, en fait, les voies publiques ne doivent pas être occupées. C'est vrai, les gens cherchent leur pitance, mais il y a des manières beaucoup plus orthodoxes par lesquelles on peut passer pour avoir son pain quotidien. Mais justement, c'est à ce niveau que je voulais dire. Je pense qu'on a donné un délai pour ceux qui ont construit les baraques.
Le 15 février.
Voilà. Vous voyez, moi, c'est là où moi ça me choque. Parce que je me dis que les premiers à mettre les kiosques là, l'État qui veille tous les jours, le premier à mettre là, c'est là-bas où on devait agir. On dit qu'on ne construit pas sur la voie publique.
La prévention.
On laisse les gens pendant des années. On laisse les gens pendant des années, comme si l'État n'existait pas. Et un matin, hop, allez dégager.
Et mieux ou pire, on est allé durant ces années collecter taxes auprès des personnes.
Donc
là-bas,
ça pose un problème. Et c'est de ça nous disons tous les jours, on ne compte personne. C'est-à-dire, un État, ce n'est pas... J'estime que ça, on peut faire autrement que ça. On laisse les gens pendant 3, 4, 5 ans et après, on prend des décisions. C'est ça qui est choquant. Alors que l'État doit veiller. Je pense, si un jour, vous étiez là-bas, vous criez, si quelqu'un était peut-être à la place, il crie, il prononce ces termes. On devait envoyer la police là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais comme ces cuirs sont construits, on n'a rien dit. Vous voyez? Ça dit que c'est. Non, on doit. L'État merci, doit quand même avoir merci. Une autre manière de faire.
D'anticiper.
Puisque les gens sont là, on les paie, on les nourrit, on les véhicule tous les jours pour l'État. Mais ils doivent agir. S'ils ne le font pas, ils sont là. C'est choquant.
Merci Michel. Un carton pour clôturer tout ça.
Non, je n'ai pas de carton.
Et l'homme,
je vais réagir comme Michel parce que vous vous rappelez du dossier Trading Gate.
Oui.
On l'a révélé l'affaire. On a parlé des dessous. L'État s'était tu. Le ministère de l'économie et des finances n'avait rien dit. Les gens ont touché ce qu'ils devraient toucher. Les gens. Et puis après un beau matin, on dit tout s'arrête. Bon, et les investissements. Et ce que les gens ont mis. Et l'avenir de toutes ces personnes qui ont mis leur épargne dedans. En fait, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas laisser tout ça.
Ce qui est devenu la suite de ce dossier.
Oui, on ne peut pas laisser des choses comme ça. Aujourd'hui, la suite, c'est quoi? Les sociétés ont disparu avec l'argent des victimes. La suite, c'est quoi?
Les victimes qui, de temps en temps, continuent à crier et puis...
Conteneur sur la voie publique. Trading Gate, tout ça. Mais on a vu toutes ces choses venir. On a vu toutes ces choses dans le pays. Mais il y avait eu un silence de mort. Et un beau matin, sur un communiqué, on dit on ferme tout. Conteneur, tout fermé, tout le monde n'a qu'à dégager. Mais on ne peut pas. La planification, la prévention, on ne peut pas gérer les choses comme ça. franchement, il faut véritablement que... Parce qu'on ne peut pas dire aussi qu'on ne fait pas notre travail. Mais la presse en parle tous les jours. Trading Gate, combien de fois on n'a pas parlé de ça?
C'est nous qu'on sanctionne.
Combien de fois on n'a pas révélé ça? Conteneurs sur la voie publique. Combien de fois on n'a pas dit que les conteneurs autour des écoles publiques, l'on doit les dégager? Le ministre Kokoroko était ici, on a parlé de ça ensemble ici. Ou bien?
Oui.
Que les conteneurs autour des écoles, on doit les dégager. Heureusement que lui, il a pris au moins des dispositions.
Ah oui.
Pour qu'on puisse dégager les écoles, les conteneurs autour des écoles publiques, que ce n'est pas normal. Mais sur la voie publique, là, attends, on doit parler encore de ça. Tout le monde voit. Tout le monde vient prendre des taxes communales, non? Oh, quand même.
Un carton?
Je n'ai pas de carton.
Jean Le Grand?
Oui, je savais, les uns et les autres ont déjà abondé. Moi, ce qui me fait dire que l'État doit appliquer la loi pour tous, moi je l'ai dit, n'appliquons pas des lois sélectives ou ne sanctionnons pas certaines personnes qui sont plus faibles et d'autres, on laisse faire, on attend parce que bon, il y a quelques intérêts ou bien il y a des accointances. Non, quand il s'agit des journalistes, on a sanctionné, rapidement même. On n'a même pas tardé sur le bâton à frapper. Maintenant, les dossiers sur lesquels nous abondons tout le temps ici, tout ce que nous sortons, que l'État également soit prompt à réagir. Parce qu'actuellement, je vous dis, il y a un malaise profond au sein de la société. Beaucoup se taisent, renferment leur frustration. Je dis, c'est parce qu'on n'a pas la force aujourd'hui que les puissants sont en train de faire la loi. On favorise des uns, mais d'autres, on les frappe. Mais quand un État fonctionne comme ça, comme Michel l'a dit, nous ne sommes pas prêts de sortir de l'auberge. Véritablement, il faut qu'on repose le fondement de notre société et qu'on applique la loi à tous les niveaux. Que le plus faible ait le même droit que le plus fort. Que le plus faible, le plus fort soit sanctionné à la même dose que le plus faible. Et je crois que si nous arrivons à ce niveau, nous aurons moins de frustration et l'émergence tant voulue que nous appelons. Sans ces principes élémentaires de base, nous allons puiser de l'eau dans un seau avec des passoires.
Merci. Et pas de carton, je suppose.
Non, pas de carton. Juste interpeller la société Togocom parce qu'au niveau de... Il y a plusieurs abonnés au niveau d'Agoué, Avedji et Legbasito qui se plaignent de la connexion Internet qui se coupe régulièrement depuis 2 semaines. Véritablement, s'ils peuvent voir qu'est-ce qu'il va à ce niveau.
Ça, c'est bien.
Non, j'ai pas grand-chose à dire. Juste pour envoyer un message à nos aînés, à la Hague, de nous aider à mieux servir le Togo, tout simplement.
Merci. Cet article allant dans le sens de l'anticipation, on n'a pas pu le commenter. Il s'agit de ce que Flambeau écrit, intitule « La culture sous contrôle ». Il s'agit des semaines culturelles dont nous plaignons souvent des dérapages, les semaines culturelles qui sont devenues des semaines de dépravation, de mœurs, de défoulement. Nombre d'apprenants expérimentent de mauvaises pratiques, notamment les boissons alcoolisées, la cigarette, le sexe, les élèves laissés à eux-mêmes dans les établissements. Eh bien, plus rien ne sera comme avant. La révolution made in ou bien made by Kokoroko s'avance. Les portes ne seront plus ouvertes à n'importe qui, à n'importe quoi. Il s'agit pour Kokoroko de faire retrouver des semaines de valorisation de la culture dans l'établissement, des apprenants aguerris sur les activités culturelles et prompts à affronter les périodes d'examen. Voilà quelqu'un qui fait le diagnostic et qui prévoit, qui anticipe. On a parlé tantôt de Zemidjan. Et nous avons aussi un ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qui est fait dans le sens de l'anticipation de l'emploi des jeunes? Autour de nous, en Côte d'Ivoire, au Sénégal,
TGV.
On a déjà des TGV. On a des métros. Et chez nous ici, on crée des sociétés de taxi-moto ou bien de tricycles dont vous ne savez pas si ce sont des motos ou bien des voitures. C'est pour dire que Mme Myriam Dossou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Il faut également que son ministère anticipe. Qu'est-ce qui est fait pour l'emploi des jeunes Togolais dans 5 ans, dans 10 ans? On va seulement attendre que l'ANPE lance des concours pour recruter des travailleurs dans le textile à la PIA. Il y a plein d'opportunités que nous pouvons explorer. C'est fini pour aujourd'hui. Oui, Magloire?
Non, juste une seconde. Vous savez, j'ai une pensée plus au seul proviseur que j'avais eu dans ma vie, Lanson Boiville, la TV, qui est un ancien membre de la Fédération Togolaise de football, de l'ère Guy Apovi, qui est décédé. Et il sera enterré ce week-end, donc repos éternel.
Ah, il a été ton proviseur?
Oui.
Ah, mais il a été mon collègue au bout de Vaughan. Nous l'appelions affectueusement Fola. Ah, donc tu le connais?
Oui, c'est mon proviseur. Fola. Le seul que j'ai eu dans ma vie. Et donc, paix éternelle à son âme, que la lumière.
Le monde est petit. Clair, ouais, donc tu pourrais être mon, tu aurais pu être mon élève.
Bien entendu.
Merci. Repos éternel à Fola. Ouais.